défi de chez nous.
Êtes-vous au courant de la situation socio-économique du Burundi?
La part de l'État dans le développement de ce secteur?
Et quel est le rôle du citoyen?
Suivez Défi de chez nous, le magazine socio-économique de la Synergie des radios.
Inzamba Agathe Kakawe, RPA Ijwi ry'Abanyagihugu et la télévision Renaissance.
C'est le rendez-vous du magazine mensuel Défi de chez nous, une émission en synergie des radios Inzamba Agathe Kakawe, RPA et la télévision Renaissance. Bonjour, bonsoir, partout d'où vous nous captez. 16 000 cas d'abandon scolaire dans les 3 provinces sur 17 que compte le pays, et ce, rien que pour ce premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023, les chiffres font froid au dos, selon le professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke au Canada, Jean Gabin Nebouté, qui sera l'invité de ce magazine. La situation inquiète-t-elle l'autorité? C'est ce qu'on va découvrir dans les 20 minutes de ce magazine. On vous fera part de l'avis du chef de l'État et de la position du parti au pouvoir sur l'intérêt de l'éducation scolaire. À suivre également les réactions de nos auditeurs sur ce qui est devenu un phénomène d'abandon scolaire au Burundi, Défi de chez nous. Vous êtes avec Singeline Djimbele, Karine Doussabe et Inès Gakiza. Bonne réception. Dans les 3 provinces de Makamba, Ngozi et Kayanza, plus de 16 000 élèves ont quitté l'école au cours du premier trimestre de l'année scolaire, selon le rapport du collectif des associations qui luttent pour les droits des enfants, FENADEB. Karine Doussabe nous parle du contenu de ces enquêtes.
Plus de 7 000 abandons pour uniquement la province de Ngozi. Kayanza compte plus de 5 000 et Makamba plus de 4 000. Ces chiffres ne comptent que pour le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023 seulement. Les enfants abandonnent l'école sous plusieurs motifs. Selon la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, ce phénomène est lié à la pauvreté dans les familles qui pousse les enfants à quitter l'école pour aller faire des travaux champêtres dans les pays voisins ou dans des centres urbains. Jean Bosco Ndahiragije représente la FENADEB dans les provinces du nord du Burundi. Nous devons ses propos à la radio anglaise BBC.
Beaucoup d'enfants abandonnent l'école pour aller exécuter des travaux champêtres en Tanzanie, espérant qu'ils vont gagner la vie. Pour ceux des provinces où on exploite les mines, à Kayanza par exemple, les enfants abandonnent l'école pour aller travailler dans les mines ou vendre les minerais, surtout ceux de la commune Kabarore. Pour les autres, ils abandonnent simplement pour manque de suivi de leurs parents. Pour d'autres, ils sont attirés par la vie en ville de Bujumbura, soit ils travaillent comme domestiques, soit transporteurs de taxis motards ou tout autre travail, mais qui ne génère pas assez.
Pour parier à ce phénomène, les parents devraient s'impliquer davantage dans l'encadrement des enfants. Pour Ndagijimana, dans certaines familles, les enfants décident eux-mêmes et prennent des décisions irréfléchies, souvent inspirées par les difficultés liées au contexte de pauvreté.
En tant qu'une association qui s'occupe des enfants, nous conseillons aux parents de suivre vigoureusement l'éducation de leurs enfants. Ils semblent croire que seul l'enseignant est capable de suivre l'enfant. Ces abandons concernent surtout les enfants de 13 à 15 ans parce qu'eux commencent à être conscients de la valeur de la monnaie. S'identifiant à leurs grands frères qui ont abandonné l'école avant, mais curieusement qui se portent bien parce qu'ils conduisent les motos ou font d'autres travaux. Tout cela leur amène à sacrifier l'école sans tenir compte de leur avenir.
L'occupation de ces enfants qui abandonnent l'école diffère cependant d'une province à une autre. Pour des provinces frontalières avec les pays voisins comme la Tanzanie, ils y vont pour exécuter des petits travaux qui leur génèrent des petits moyens de subsistance. pour d'autres des provinces où on exploite les minerais, ces enfants préfèrent s'y rendre pour un gagne-pain, tandis que d'autres se rendent dans les centres urbains pour faire des travaux domestiques. En 2021, la province de Luigi était classée la première, avec un taux d'abandon de plus de 11%. Sur un effectif total de près de 130 000 inscrits, près de 15 000 ont abandonné l'école. La province de Bujumbura était la première à enregistrer moins d'abandon, avec un taux de 3,7%.
Karine, vous savez, l'école devient de moins en moins intéressante à différents niveaux. Le président de la République et son parti ne prennent pas, en tout cas, le bâton du pèlerin pour mobiliser les acteurs de l'éducation autour des enfants à l'école. Inès Egakiza revient sur les discours politiques de ses dirigeants au plus haut sommet de l'État.
C'était en date du 10 de ce mois courant, Inkerebuti Day, journée qui était dédiée à la jeunesse. Président Evariste Ndayishimiye interpellait un des participants pour le présenter aux autres, car, a-t-il dit, avec son niveau 6e, il sert de maître même aux détenteurs de diplômes d'ingénieurat. Ce même jour, le président de la République est allé jusqu'à dire que fréquenter l'école crée plus de problèmes au moment où les illettrés, eux, sont à l'aise.
On me dit que l'école est la base de tout développement. Mais comment puis-je le répéter alors que je ne vois aucune de ces personnes qui ont fait des études poussées m'aider à développer le pays? Par contre, je trouve que l'école ne crée que des problèmes. Un enfant qui va à l'école pense qu'au lendemain de sa graduation, il sera embauché et il reste stressé. Pourtant, l'autre qui n'a pas fréquenté l'école, lui, est tranquille. Alors, choisirais-tu de vivre sous stress ou de vivre tranquille?
Évariste Ndayishimiye n'est pas le seul dirigeant du Burundi à dénigrer l'école. Révérien Dikuliyo, ancien président du Sénat et actuel secrétaire général du parti présidentiel le CNDD-FDD, s'adressant à la jeunesse de son parti, a déclaré que l'école n'est en rien utile dans la vie de tous les jours.
Vous tous les leaders, sachez que notre jeunesse doit être préparée. Ne considérez pas qu'ils ont terminé leurs études. Demandez ceux qui sont sur le banc de l'école, ce qu'ils apprennent ne sert pas à grand-chose au Burundi. Ce n'est qu'une fondation. Vous qui êtes au secondaire, x au carré moins 1 égale x moins 1 fois x plus 1. Ça te sert à quoi sans dans la vie quotidienne? Est-ce que ça aide à capturer les termites?
Il n'a pas dit quoi.
Plus d'un trouve ces discours des autorités du Burundi décourageants pour les plus jeunes qui entendent ces propos de la part des dirigeants qui étaient censés les encourager à fréquenter l'école et aussi aider à résoudre les multiples problèmes du secteur de l'éducation.
Merci Inès Gakiza. Et qu'en pensent nos auditeurs? Y a-t-il des liens de cause à effet entre le comportement des élèves et ce discours de l'autorité? Parole aux auditeurs, c'est tout de suite.
Défi de chez nous, parole aux auditeurs.
L'abandon scolaire dans un pays qui ne connaît pas de guerre, c'est en grande partie expliqué par la pauvreté. Nous avons une misère sans nom, une pauvreté qui augmente du jour au lendemain. Il ne suffit pas de rendre gratuite l'éducation, mais encore, il faut créer les conditions sociales, favorables, les conditions qui permettent que l'enfant puisse aller à l'école et suivre normalement ses cours. Il faut que l'enfant soit vêtu, soit nourri convenablement. Et lorsque les enfants quittent leur ménage pour aller à l'école, les responsables scolaires leur donnent l'ordre d'aller au bord des routes pour attendre une autorité quelconque qui va passer. Les jeunes, ces jeunes scolarisés, ces jeunes élèves vont passer plus de 6 heures sous le soleil de Satan avec ils n'ont rien mangé. Ça veut dire ils sont frappés par la faiblesse, la faim, le soleil. Bah, écoute, ils peuvent se dire inutile de perdre mon temps ici, je peux abandonner.
sont ces discours politiques qui découragent justement les jeunes, et ces discours qui tendent à sous-estimer la valeur de l'éducation. Les discours du président Dokuim Nkurunziza qui disait que pour sécuriser le pays, on n'a pas besoin d'officiers formés à l'université, quand quelqu'un qui a fait la 8e peut sécuriser le pays. Ces discours d'André Chimie qui disent qu'aujourd'hui étudier c'est un problème. Ces discours de l'Évérien Nkurio qui arrive à dire que les itsitarés, les mathématiques n'aident à rien pour capturer les termites à manger. Mais écoute, tous ces discours ne sont pas de nature à motiver les jeunes d'aller à l'école. Ce sont des discours plutôt qui, pour les non-avisés, sont des discours qui démoralisent, qui bloquent justement la motivation des jeunes pour aller à l'école. Et par conséquent, les élèves préfèrent, ces jeunes préfèrent abandonner. Vous savez, il y a des provinces dans lesquelles aujourd'hui, les jeunes vous expliquent que ça ne sert à rien à étudier, parce que les grands de la région, je prends ici par exemple, allez à Boubanza, allez à Chibitoke, on va te raconter que les généraux de là sont très riches, mais qu'ils n'ont pas fait l'école, que les grands commerçants sont très riches et qu'ils n'ont pas fait l'école. Alors les jeunes se demandent, mais pourquoi l'école? Voilà un peu de mots les facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui cet abandon scolaire.
La paupérisation et le désespoir qui en suit en est la cause, tandis que les propos banals, indisciplinés, malhonnêtes et insultants viennent ces derniers jours pour ajouter du drame au drame. Le secrétaire général du parti CNDD dit que les maths n'attrapent pas les termites. En maths, dévalent tous jeunes enfants du monde entier, arrogant du blabla, sans pour autant donner la bonne réponse du produit remarquable x carré moins z. Dans la même foulée, le premier de l'exécutif burundais se lamente de services médiocres des élus, arguant que vaut mieux les analphabètes. Ce sont de mauvais discours aux jeunes. Ce sont des discours qui désorientent. Les jeunes ne trouvent plus de modèle d'identification et trouvent que leur avenir est mis en cause. Ils se déchargent ensuite dans le sauve-quitte dans les pays voisins, mais aussi dans la délinquance.
Je me dis qu'il y a la satisfaction d'ailleurs chez eux. Il y a la satisfaction vu la joie que prouvait, le plaisir d'ailleurs, que prouvait Gérard Ndavirabe en commune Matongo quand il expliquait la valeur de la monnaie burundaise. Il éprouvait de la joie parce que en lui, il croyait que personne ne peut comprendre son discours. Il dit que la monnaie burundaise est tellement supérieure, que d'ailleurs la population est satisfaite, qu'ils mangent des lapins, de la viande, qu'ils n'ont pas besoin de toucher au dollar, au euro. Donc il n'y a aucun problème pour eux. Ça veut dire, cet esprit de vouloir rendre obscur les phénomènes, les faits sociaux, c'est ça justement la vision des dirigeants du CNDD-FDD.
Défi de chez nous, parole aux auditeurs. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, citant Nelson Mandela. Le professeur de sciences de l'éducation à l'université de Sherbrooke au Canada propose des pistes de solutions. Jean Gabin Nebouté est notre invité. L'invité.
Lorsqu'on analyse les résultats des travaux de recherche qui ont été menés sur le phénomène de décrochage scolaire, on peut en déduire que ce dernier constitue un phénomène complexe et qu'il est, je dirais, le résultat d'un long processus. Et souvent, on va voir des élèves qui éprouvent des difficultés au niveau de ce qu'on appelle les déterminants de la persévérance scolaire, parmi lesquels on peut citer la motivation et l'engagement, l'estime de soi. Ici, je parle des facteurs qui sont reliés directement à l'élève. Et il y a aussi ce qu'on peut appeler aussi l'engagement parental, le climat scolaire, tout ce que la communauté offre aussi comme ressources de soutien aux élèves. Par exemple, quand il s'agit de faire des activités parascolaires au niveau de la communauté, tout ça aussi, ça vient. offrir un soutien à l'élève. On se recachera pas lorsqu'un élève rencontre des difficultés, hein, des retards ou des échecs dans les matières scolaires de base. Hein, sa motivation et son engagement vont en ressentir. Il en est de même d'ailleurs pour son estime de soi qui va baisser considérablement. Il y a aussi quand même un facteur important, l'engagement parental. Hein, l'engagement parental qui va généralement se refléter dans ce qu'on pourrait appeler les pratiques qui sont liées à la scolarité. Ici, on peut parler des suivis scolaires, des soutiens, l'aide qui est apportée, notamment au niveau des devoirs et des leçons. Il y a aussi ce qu'on appelle, justement, au niveau de l'engagement parental, aussi ce qu'on appelle le soutien parental, qui va se refléter, je dirais, dans les attitudes que les parents vont communiquer à leurs enfants. Hein. Est-ce que, par exemple, ils offrent un soutien affectif constitué d'encouragement, de compliments, de chaleur, d'intérêt? Est-ce que les parents vont encourager l'élève, vont encourager l'enfant à l'autonomie? Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont venir, je dirais, renforcer le rapport positif aussi à l'apprentissage et à l'école. D'ailleurs, je parlerai aussi ici de ce qu'on pourrait appeler aussi le climat scolaire, autrement dit l'atmosphère qui règne dans l'école. Quand on parle de climat scolaire, hein, pour les élèves, pour surtout les élèves, les jeunes qui sont à l'école primaire, même à l'école secondaire, c'est important qu'à l'école, ils sentent qu'il y a un sentiment de justice, qu'ils sentent que les élèves sont traités de manière équitable. C'est important aussi qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sentent qu'il y a des adultes qui sont bienveillants autour d'eux, qu'ils sentent qu'ils ont un certain attachement à l'école, ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'appartenance à l'école. Est-ce que quand l'élève vient à l'école, il sent qu'il est dans un environnement bienveillant, qu'il peut participer aux décisions de l'école? Toute la qualité aussi des relations interpersonnelles et du soutien que l'élève perçoit dans son école. Est-ce qu'il a, par exemple, quand il vit des situations particulières, des problématiques, est-ce qu'il sent qu'il peut se confier aux gens de l'école? Est-ce qu'il a des amis à l'école? Tous ces facteurs vont venir vraiment à renforcer aussi le rapport positif que l'élève, que l'enfant va entretenir avec l'apprentissage. Évidemment, au-delà de ces facteurs, hein, il ne faut pas négliger les questions de pauvreté dans les familles. Comme on le dit, un de mes profs, que Dieu son âme, me disait tout le temps, primum vivere de inde philosophare. Donc, vivre d'abord, philosopher ensuite. Alors, pour les élèves, on ne se le cachera pas, qui vont à l'école sans avoir mangé, ils ne sont pas disponibles aussi pour l'apprentissage. C'est des situations quand même aussi qui sont problématiques. Le niveau de pauvreté dans notre pays est rendu très préoccupant, à tel point que ça affecte aussi les différentes facettes de la vie. Et donc il ne faut pas négliger ça aussi. Par rapport à votre deuxième question, comme chercheur, vraiment, je ne peux pas dire que il y a lien de cause à effet entre les discours prononcés par le président du parti au pouvoir et le président de la République ces derniers temps. Il me faudrait faire une recherche sur la résonance de ces discours auprès des élèves en général et sur ces élèves décrocheurs en particulier. Et si je veux dire, est-ce que d'abord ils ont entendu ce discours? C'est pas tout le monde qui a la radio ou qui reçoit les audios pour écouter les discours de ces dirigeants. Si y a ceux qui ont écouté ce discours, qu'en pensent-ils en fait? Cela étant, je ne pourrais pas non plus dire que ces discours mobilisent les élèves qui sont vraiment mobilisés pour la persévérance scolaire. Okay? C'est pas des discours qui sont mobilisants pour la persévérance scolaire. C'est Nelson Mandela qui disait, à juste titre, hein, que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation est vraiment l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc, les discours des dirigeants devraient aussi s'inscrire dans cette philosophie de dire, pour développer notre pays, pour changer, faire évoluer les mentalités, pour améliorer les conditions de vie de nos populations, ça devra passer par l'éducation. Donc, je pense que les dirigeants devraient prononcer des discours qui sont rassurants, qui sont mobilisateurs, qui amènent les enfants à se projeter dans l'avenir. Parce que sans éducation, point de développement non plus, tant sur le plan individuel que collectif. Voilà. Vous m'avez posé aussi la question de donner des pistes de solutions. Que faudrait-il faire pour que ce phénomène de décrochage scolaire soit jugulé? D'entrée de jeu, je dirais qu'il faut convenir d'une chose, hein, que le décrochage de milliers d'enfants dans notre pays traduit un échec de la société. S'il est vrai que l'on ne peut pas apprendre à la place de l'élève, hein, il reste quand même que lorsque des élèves ne bénéficient pas de conditions d'enseignement-apprentissage adéquats, la responsabilité de l'échec devient partagée par la société. Et se situe à différents niveaux de l'écosystème social. La recherche le démontre très bien que la réussite de l'école dépend de beaucoup de facteurs. Je parlais de l'élève lui-même avec sa motivation et son engagement. Il y a aussi le contexte scolaire. Je parlais de l'engagement parental. Il y a toute la question aussi des relations école-famille-communauté qui doivent aussi avoir une certaine influence sur la réussite des élèves. Donc, cela veut dire que les actions doivent être initiées à différents niveaux, donc à différents niveaux de la société. Dans l'immédiat, il faudrait quand même commencer déjà à sensibiliser les jeunes avec des discours qui sont rassurants. Sans oublier qu'il faut travailler sur des causes structurelles qui conduisent à la pauvreté. J'ai entendu dernièrement les chiffres d'abandon scolaire qui ont été présentés par, je crois, les responsables d'une organisation qui s'appelle FENADED, qui ont fait une enquête justement sur ces abandons. Honnêtement, ces chiffres donnent froid au dos. Tu entends ici, dans telle province, plus de 7 000, dans une autre, plus de 5 000. Donc, c'est quand même des milliers d'élèves qui quittent l'école. Il me semble donc que, compte tenu de l'ampleur du phénomène, les dirigeants au plus haut sommet de l'État, en commençant d'ailleurs par le président de la République, devraient être le premier à donner un discours rassurant qui mobiliserait les jeunes vraiment à retourner à l'école. Hein. Donc, les dirigeants, comme je le disais, les dirigeants devraient se saisir de la question, prendre le bâton du pèlerin, et aller sur le terrain sensibiliser les jeunes à l'éducation pour leur avenir. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas juste l'avenir des jeunes qui seraient hypothéqués, mais aussi, je dirais, l'avenir de toute la nation. Mais il faut parler au plus pressé, parce que si les chiffres continuent comme ça, je ne sais pas comment on va rectifier le tir. Donc je pense qu'il faut vraiment parler au plus pressé et puis mobiliser les différents acteurs éducatifs à différents niveaux.
L'invité. Professeur Jean Gabin Nebouté était l'invité de Défi de chez nous. Et c'est sur son analyse que nous allons boucler la boucle à notre émission en synergie des radios RPA, Inzamba et Télévision Renaissance. Signorine Ndjimbele, j'étais à l'animation. Je vous dis merci de votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.
La Télévision Renaissance, Défi de chez nous.